Depuis 15h10 dans nos studios à Paris, l'heure du journal d'Haïti et des Amériques présenté par Marion Cazeneuve. Bonjour Marion.
Bonjour Juliette, il est 9h10 à Port-au-Prince. Ariel Henry appelle à l'aide la communauté internationale. Première prise de parole du Premier ministre haïtien par intérim en 3 semaines de manifestation. Ce dernier n'est pas revenu sur sa décision de l'ajustement du prix du carburant. On appellera France Duval du Nouvel Istan début d'édition. Et même en exil, les rares voix de l'opposition au Nicaragua subissent des pressions. Les proches d'un opposant ont été arrêtés à la mi-septembre. RFI a pu joindre cet opposant. Nous écouterons son témoignage.
Je vis aujourd'hui en exil forcé. Je n'ai jamais voulu quitter mon pays. Ma vie est là-bas, mes racines sont là-bas.
Une nouvelle flambée de violence au Mexique dans l'état du Guerrero. 18 personnes ont été tuées par des hommes armés qui visaient le maire d'une commune. Et puis à la une du journal de l'Outre-mer, Benoît Ferrand, ces moyens déployés par les autorités en Guadeloupe pour la desserte en eau.
Le conseil départemental de la Guadeloupe va mobiliser ses stocks stratégiques pour venir en aide aux syndicats de l'eau, manifestement un peu débordés par les travaux à réaliser suite au passage de la tempête Fiona.
A tout à l'heure, Benoît Ferrand.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
M'a demandé toute communauté internationale là, tout pays amis Haïti, yo, pour vous porter coller avec nous, aider nous combattre.
C'était hier en Haïti, première prise de parole du Premier ministre Ariel Henry en 3 semaines de manifestation. Il appelle à l'aide la communauté internationale, une adresse à la nation en créole que vous publiez en intégralité aujourd'hui dans le Nouvelliste. France Duval, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien. France, que demande Ariel Henry à la communauté internationale ?
Bon, c'est un appel au secours. C'est comme ça que le Nouvelliste a lu l'adresse à la nation du Premier ministre Ariel Henry, faite hier soir, très tard, encore une fois. Et le Premier ministre a dressé un portrait de la situation. Ce portrait, tout haïtien peut dresser le même portrait. Il a reconfirmé que les prix de l'essence vont rester inchangés après l'augmentation de plus de 100% des produits pétroliers. Et il a appelé à l'aide pour dire qu'il y a un problème, il y a une crise humanitaire. Il y a le choléra qui se développe, on ne peut pas circuler, il n'y a pas d'essence. En réalité, ce tableau, tout le monde le connaît depuis plusieurs jours. Le Premier ministre a repris le tableau, mais cette fois, pour la première fois, il a appelé au secours, il a demandé de l'aide. Il n'a pas dit quel type d'aide, il n'a pas parlé d'intervention militaire, mais en réalité, si on comprend bien entre les lignes, il veut vraiment qu'on l'aide à sortir du trou.
Et l'appel du corps diplomatique à une trêve humanitaire pour libérer le terminal pétrolier de Vareux a suscité aussi des réactions diverses en Haïti.
Tout à fait. Bon, il faut dire qu'on appelle à la trêve pendant que la police essaie de déloger les bandits. Pour le moment, la police et l'armée n'ont pas réussi à déloger les bandits. Pour le moment, officiellement, il n'y a pas encore de trêve. La situation est toujours bloquée. Le terminal pétrolier de Vareux, le principal centre de stockage des produits pétroliers en Haïti, est toujours inaccessible malgré toutes les tentatives, malgré les appels, malgré la situation vraiment critique sur le terrain, critique au niveau humanitaire, les hôpitaux, le choléra, la vie tout court est bloquée en Haïti de plus en plus parce que ça va faire un mois depuis qu'on n'a plus d'essence.
Et pendant ce temps, en coulisses, les États-Unis et le Canada réfléchissent à sanctionner les gangs et ceux qui les financent. De quelles sanctions parle-t-on, France ?
Pour le moment, on ne sait pas exactement ce que contiendra la loi américaine, car il y a une loi qui a été écrite, présentée par un démocrate au Sénat et par un autre démocrate à la Chambre des représentants. On ne sait pas ce que contiendra cette loi. La loi vise, si on comprend bien, les gangs, mais aussi ceux qui financent et supportent les gangs en Haïti. Parce que derrière le chaos qu'il y a en Haïti aujourd'hui, il y a des gens qui ont un agenda politique, une façon de faire des affaires. Et les États-Unis, suivis par le Canada, veulent toucher ces gens au portefeuille, appliquer des sanctions, peut-être les empêcher de partir. Mais le vrai problème en Haïti, c'est qu'il faut un nouveau cadre légal. Parce que la justice en Haïti ne peut pas s'occuper de ce qui se passe à ce niveau. Parce que la justice en Haïti est totalement inexistante. La communauté internationale est en train de créer quasiment un nouveau droit pour pouvoir intervenir à ce niveau en Haïti.
Et justement, ces possibles sanctions, est-ce que ça peut freiner d'éventuelles négociations sur la rouverture du terminal de Vareux ?
Bon, en réalité, on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'à quel point ceux qui bloquent le terminal sont au courant des intentions des sénateurs et des députés américains. En réalité, je ne pense pas que cela va jusque-là. Mais en même temps, le message est envoyé, le message finira par arriver dans les oreilles de ceux qui doivent entendre ce message.
Un dernier mot, France. Vous nous appelez d'Istanbul. Vous êtes en Turquie pour suivre une Coupe du monde de football.
une Coupe du monde de football particulière, c'est la Coupe du monde de football des amputés, la sélection nationale haïtienne des amputés qui a très bonne réputation, qui est championne de la Caraïbe et de l'Amérique du Nord, est en lice en quart de finale ce matin. Haïti va affronter la Tanzanie après avoir éliminé les États-Unis, la France et le Libéria. Haïti va jouer un match à qui tout double pour savoir si on avance encore dans la compétition. Il faut dire que c'est la seule bonne nouvelle qu'il y a en Haïti ces derniers temps. Les gens regardent les matchs, les gens sont heureux de voir les plus diminués, les plus pauvres, les plus oubliés de la société haïtienne qui sont en train de donner des résultats extraordinaires qu'aucune équipe haïtienne de football n'a pu atteindre ces derniers temps. C'est un très beau spectacle, mais c'est aussi un réconfort pour tous les Haïtiens pour le moment, cette équipe des amputés qui donne des résultats extraordinaires.
Et on pourra la suivre, cette Coupe du Monde, notamment en lisant vos articles donc, dans le Nouvelliste. Merci beaucoup, Franz Duval, comme tous les jeudis avec nous sur RFI pour commenter l'actualité haïtienne.
RFI, la radio del mundo.
Et nous partons à présent au Nicaragua, où l'étau du régime Ortega semble se resserrer autour des rares voix de l'opposition. Mi-septembre, deux femmes franco-nicaraguayennes ont été arrêtées. Elles seront jugées pour conspiration et diffusion de fausses nouvelles. Les charges retenues par le tribunal de Managua viennent d'être rendues publiques. Janine Orviller-Cuadra et sa fille Ana Alvarez Orviller sont respectivement l'épouse et la fille d'un opposant nicaraguayen, Javier Alvarez Zamora. Ce dernier a pu fuir, lui, au Costa Rica voisin. Il livre son témoignage à Marie Normand pour RFI.
J'ai commencé à voir autour de ma maison des véhicules étranges, des policiers en civil qui passaient à moto, certaines choses qui me paraissaient anormales. Donc je me suis dit que potentiellement, quelque chose était en train de se passer et j'ai décidé de quitter ma maison sans être totalement sûr que j'étais bien ciblé. Le même jour, le 13 septembre, à une heure avancée de la soirée, la police s'est présentée chez ma fille et dans la maison où je vis avec ma femme. Ils me cherchaient, je ne sais pas pour quelle raison, car ils n'avaient pas de mandat d'arrêt. Comme ils ne m'ont pas trouvé, ils ont embarqué ma femme, ma fille et mon gendre. Comme une manière de dire, on ne t'a pas trouvé, donc on va transférer à ta famille la faute, entre guillemets, qu'on t'a assignée. Je vis aujourd'hui en exil forcé. Je n'ai jamais voulu quitter mon pays. Ma vie est là-bas, mes racines sont là-bas.
Est-ce que vous avez des nouvelles récentes de votre famille ?
On ne sait rien du tout. C'est l'une des caractéristiques de la prison d'El Chipote, qui est la pire prison du Nicaragua. Ils t'y interrogent, ils t'isolent totalement. C'est là qu'ils sont. Ils ont totalement disparu pendant une journée jusqu'à ce qu'on comprenne qu'ils étaient là-bas. En général, quand tu es dans cette prison, il se passe un certain temps durant lequel tes proches ne savent absolument rien, pas même ton état de santé. Tu n'as pas le droit de communiquer, même pas de voir un avocat. C'est comme un trou noir. Pendant 17 jours, on ne savait pas si des charges étaient retenues contre ma famille, jusqu'à dimanche, où l'on a appris que ma femme, ma fille et mon gendre étaient poursuivis pour conspiration en vue de porter atteinte à l'intégrité nationale et diffusion de fausses nouvelles, ce qui est absolument faux, parce qu'ils ne participaient à aucune des activités militantes auxquelles je participais.
Javier Alvarez, est-ce que les séquestrations de membres de la famille d'opposants sont quelque chose d'habituel au Nicaragua ?
C'est une nouvelle tactique des autorités. Dans le passé, si la police venait me chercher chez moi et qu'ils ne me trouvaient pas, ils interrogeaient mon épouse à la maison, 2, 3 ou 4 heures. Ils pouvaient éventuellement lui faire passer une nuit au poste, mais elle était renvoyée chez elle le lendemain. Mais là, depuis le mois de septembre, nous avons commencé à voir ce nouveau modèle répressif. C'est un schéma pervers, aberrant, qui consiste à transférer la faute, entre guillemets, qu'il te reproche, à la famille, à ton cercle le plus intime. Et donc, il les accuse à tort. C'est un nouveau modèle de répression qui va à l'encontre de tous les standards minimums des droits de l'homme. Ça ne s'était encore jamais vu. Et c'est grave, car cela dit à la population, qui est déjà terrorisée, non seulement on va aller chercher ceux que nous considérons comme nos ennemis, mais nous allons aussi nous en prendre à leur famille.
Et comment vous avez réagi quand vous avez compris que votre épouse, que votre fille et votre gendre avaient été arrêtés à votre place ?
Ça a été un choc. Tout le monde se demande ce qu'il va pouvoir encore se passer maintenant, jusqu'où ça va aller. Je voudrais juste ajouter que ma femme a 63 ans. Nous avons perdu un enfant en 2002. On a déjà dû maintenir notre famille à flot. En 2016, on lui a détecté un cancer du sein. Elle est en rémission et elle a besoin d'un suivi médical. Ma fille a un déficit immunitaire. Elle a 43 ans, c'est une jeune femme brillante. Son mari, mon gendre, a réussi à construire une belle entreprise qui se retrouve sans chef aujourd'hui. Voilà les personnes qui sont détenues aujourd'hui. Ce ne sont pas des délinquants, elles n'ont rien fait de mal. Mais ce sont elles qui sont accusées et qui sont en prison.
Une interview que vous avez réalisée hier, Marine Roman, bonjour.
Bonjour.
On le disait tout à l'heure, l'épouse et la fille de Javier Alvarez Zamora ont la double nationalité, française et nicaraguayenne. Comment réagit le ministère français des Affaires étrangères?
Alors, de façon très prudente, hein, c'est ce que nous confiait hier Javier Alvarez, pas ou peu de communication. Dans son point presse de mardi, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères dit suivre de très près la situation, soutient que l'ambassade de France à Managua est aussi pleinement mobilisée. Elle dit avoir réitéré sa demande d'accès consulaire, c'est-à-dire son droit de visite en prison garanti par la Convention de Vienne. Le Quai d'Orsay qui n'a pas répondu à nos demandes de précision. Cette arrestation se tient, pour rappel, dans un contexte d'isolement diplomatique du Nicaragua qui vient d'expulser l'ambassadrice de l'Union européenne et rompre ses relations avec les Pays-Bas.
Au Mexique, à présent, 18 personnes ont été abattues dans une attaque armée. Une vingtaine d'autres, au moins, sont blessées dans l'état de Guerrero. Ça s'est passé hier. Un groupe d'hommes a surgi et ouvert le feu en pleine rue. Gwendolina Duval, la commune se situe dans une zone particulièrement dangereuse car sous l'influence du crime organisé.
Peu après, l'attaque a été revendiquée sur les réseaux sociaux par un cartel nommé Los Tequileros. C'est un groupe criminel qui sévit dans la région. Il s'agirait d'un règlement de compte et cette tuerie serait en fait une menace adressée à un autre puissant cartel de la drogue, la famille Michoacana présente dans la Tierra Caliente depuis des décennies. L'attaque semble être dirigée contre les autorités de la ville. La police rapporte que le palais municipal présente de très nombreux impacts de balles, ainsi que la maison personnelle du maire, Conrado Mendoza Almeida. Ce dernier a été tué dans la fusillade ainsi que son père, ex-politique local et plusieurs policiers. Ce n'est pas la première fois que San Miguel Totolapan est le théâtre de ce type d'affrontement entre cartels. Plusieurs attaques y ont déjà eu lieu ces dernières années. Cette petite ville de 20 000 habitants se trouve dans une zone dangereuse et extrêmement compliquée. Elle est le bastion des mafias et du crime organisé qui se disputent le territoire et le trafic, puisqu'elle se trouve sur la route de la drogue qui arrive en provenance du Pacifique. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
On vous retrouve Marie Normand pour la revue de presse. Cette fois, en Équateur, la police nationale dit avoir rétabli le contrôle à l'intérieur d'une prison de la banlieue de Guayaquil.
Les derniers bilans de ces nouvelles émeutes qui ont touché hier le pénitencier du littoral et qui font la une de toute la presse locale. 18 détenus blessés, 5 policiers blessés et 5 détenus tués. C'est dans cet ordre que les autorités équatoriennes annoncent le bilan. Ces nouveaux incidents, pour reprendre encore une fois les termes de la police, se déroulent 2 jours après le massacre de 16 prisonniers dans une autre prison. Et ces dernières années, près de 450 prisonniers ont été tués. Des crises carcérales sans peine ni coupable, dénonce le journal La Hora aujourd'hui. Pourquoi l'État ne parvient-il pas à reprendre le contrôle des prisons depuis 2 ans, demande aussi El Universo. Un ancien directeur de prison témoigne dans le journal. C'est tout un système qui, selon lui, s'est peu à peu déformé au point que les détenus en sont venus à contrôler les prisons. Pas de poursuites ou des poursuites qui n'aboutissent pas. Une police qui n'intervient pas ou avec beaucoup de retard, mais qui en revanche n'hésite pas à réprimer les manifestations de proches de détenus qui demandent des nouvelles. C'était le cas encore hier à Guayaquil, raconte El Universo. Le journal précise que 2 caméramans et 1 journaliste ont été attaqués également au gaz lacrymogène.
Aux États-Unis, colère à la Maison-Blanche, l'OPEP+, l'organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs 10 partenaires ont décidé d'une coupe drastique des quotas de production. Un coup dur pour Joe Biden et sa diplomatie.
Et oui, cette décision intervient moins de 3 mois après la visite du président Biden en Arabie Saoudite, rappelle le Wall Street Journal. Pour la Maison-Blanche, il est clair que l'OPEP s'aligne sur la Russie, décision qui pourrait être synonyme d'une plus grande souffrance à la pompe pour les automobilistes américains juste avant les élections de mi-mandat. En réponse, l'occurrence le président américain, a ordonné le déblocage de 10 millions de barils de pétrole de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis. Mais peu de chance, selon le journal, que cela joue véritablement sur les prix.
En parallèle, Marie, les États-Unis cherchent à assouplir les sanctions contre le Venezuela.
Ce qui permettrait à Chevron de recommencer à y pomper du pétrole, justement. Information exclusive en une du Wall Street Journal ce jeudi. En échange, cet accord obligerait Caracas à entamer des pourparlers avec les opposants politiques dans le but d'organiser des élections libres en 2024. Le journal indique que Wall Street fait pression sur l'administration Biden depuis plusieurs mois déjà pour qu'elle lève ses sanctions. Les plus sévères, on le rappelle, remontent à 2019 lorsque les États-Unis et leurs alliés avaient déclaré que le chef de l'opposition, Juan Guaido, était le président légitime du Venezuela. Des sanctions qui ont encore réduit une production de pétrole déjà limitée en raison du sous-investissement, de la corruption et de la mauvaise gestion de l'administration vénézuélienne.
Et pour finir, Marie, le retour des vols commerciaux entre la Russie et Cuba.
Et les avions passent par le pôle Nord, Marion, pour contourner l'espace aérien de l'Union européenne. C'est ce qu'indique le média d'opposition cubain 14 Imedio. Les vols directs de Northwind Airlines entre Moscou et les stations touristiques de Varadero et de Cayo Coco ont repris 7 vols hebdomadaires pour l'instant. Les vols étaient suspendus, on le rappelle, depuis la fermeture de l'espace aérien européen aux avions russes. Il a donc fallu trouver un nouveau plan de vol et l'itinéraire est beaucoup plus long aujourd'hui. 3 heures de voyage supplémentaire et beaucoup de carburant, insiste 14 Imedio.
Et merci Marie Normand pour la revue de presse des Amériques.
Le journal de l'Outre-mer.
On retrouve Benoît Ferrand à la une face à une situation qualifiée de titanesque. Le conseil départemental de la Guadeloupe mobilise les grands moyens en faveur de la desserte en eau, Benoît.
Eh oui, le conseil départemental, ex-conseil général, va mobiliser ses stocks stratégiques pour venir en aide aux syndicats de l'eau et de l'assainissement. Syndicats manifestement un peu débordés par l'ampleur des travaux à réaliser suite au passage de la tempête Fiona. Alors les stocks stratégiques, ce sont des fonds et des matériels qui étaient à l'origine destinés au réseau d'irrigation agricole. Olivier Lancien.
La tempête Fiona a empiré la situation du réseau d'adduction en eau de la Guadeloupe, déjà fortement dégradé. Le département fait un constat de difficultés, je cite, inédites. Les casses sont nombreuses. Du coup, il faut des solutions fortes. C'est 200 000 euros de matériel d'urgence, réservé en principe à l'irrigation agricole, doivent permettre d'assurer la stabilité de l'approvisionnement en eau des Guadeloupéens. Il s'agit de tuyaux, de boulons et de matériel divers. Les fameux feeders, en fait, permettent de transporter l'eau produite notamment par Belocado vers les unités de distribution pour les différents secteurs de l'archipel. Ensuite, la situation est exceptionnelle. Près de 3 semaines après le passage de la tempête Fiona, la distribution du précieux liquide est toujours problématique. C'est exceptionnel. Là aussi, les équipes du syndicat mixte de gestion sont sur le terrain au quotidien sans relâche, mais la tâche semble titanesque. Le syndicat mixte semble avoir du mal à faire face.
Direction la Martinique maintenant, avec un sujet plus gai, si l'on peut dire, avec le domaine martiniquais d'expérimentation, le DOM, inauguré mardi dans la commune du Prêcheur. Le DOM, c'est une infrastructure naturelle, autonome et scientifique, installée au pied d'un célèbre volcan, la Montagne Pelée. Un nouveau site résolument tourné vers le développement durable. Reportage Manuel Larade.
Quand on arrive, on accède à un belvédère. De ce belvédère, on voit tout le Prêcheur, avec une mire au sol qui nous montre tout notre environnement à 360 degrés, qui nous explique la mer, les montagnes, les monts, la Montagne Pelée.
Le domaine martiniquais d'expérimentation est désormais un atout pour le Nord, estime Patricia Palmont, la présidente du conseil d'exploitation du Dôme.
L'inauguration aujourd'hui du Dôme va apporter une nouvelle identité au territoire Nord et surtout la ville du Prêcheur. C'est tout un ensemble touristique, donc une nouvelle dimension pour le territoire Nord, avec les visites des locaux, des écoles et aussi des touristes qu'on attend pour pouvoir visiter ce beau site basé à partir d'une biodiversité immense, puisque c'est un outil touristique indépendant avec de l'eau de pluie, de l'énergie solaire, un bel outil innovant pour le territoire Nord.
L'ouverture du Dôme est prévue pour la fin de l'année.
Bon après-midi Marion, à demain.
À demain, Benoît Ferrand. C'est donc ainsi que s'achève ce journal d'Haïti et des Amériques. Il était réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. Demain, donc, rendez-vous, vous le savez, dès 13h10, temps universel, pour une nouvelle édition. Et dans quelques instants, vous retrouvez Pascal Paradou avec De Vive Voix. Excellente journée sur RFI.